Salut, c'est François de Serial Entrepreneur. Avant de lancer cet épisode, je suis très heureux de vous annoncer que le podcast est soutenu par l'EDEC Business School, troisième grande école en France selon le Financial Times. L'entrepreneuriat se démarre très souvent à l'école, et vous le savez, nombreux et nombreux sont les entrepreneurs qui ont créé leur premier projet pendant leurs études. L'ambition de l'EDEC, c'est de former ses étudiants entrepreneurs à avoir un impact positif sur le monde au travers de leurs projets. L'école a ainsi intégré l'impératif de responsabilité globale dans sa stratégie, tant au niveau de ses incubateurs que de ses cours et de ses initiatives académiques. Au sein de ses campus de Lille, Nice, Paris à Station F ou encore à Berkeley en Californie, elle accompagne les startups grâce à sa méthode unique d'entrepreneuriat, Responsible Entrepreneur. Entrepreneurship by Design, une approche innovante permettant d'intégrer les enjeux économiques, sociétaux et environnementaux au cœur de leur modèle de développement et ce, dès leur création. L'objectif de l'EDEC, faire émerger un nouveau modèle de start-up adaptable à tout projet qui intègre pleinement les enjeux de responsabilité. Chaque année, ce sont ainsi plus de 70 nouvelles start-up qui intègrent ces incubateurs. Si vous souhaitez en savoir plus, n'hésitez pas à vous rendre sur www.edec.edu. Je vous souhaite une excellente écoute et vous dis à très vite. Bienvenue sur Serial Entrepreneur. Je suis François Allais, fondateur du podcast, et depuis 2017, je pars à la rencontre d'entrepreneurs remarquables. Chaque entrepreneur possède une histoire unique, a dû prendre des décisions fortes pour réussir et a franchi un cap dans son aventure grâce à des rencontres. Dans ce podcast, j'aime mettre en avant toute la richesse et la diversité de l'entrepreneuriat en France à travers des conversations intimes, authentiques et sans bullshit. Chaque dimanche à 18h, retrouvez un nouvel épisode exclusif. Aujourd'hui, je suis très heureux de recevoir Yann Darwin. Salut Yann, comment tu vas ?
Salut, merci à toi de me recevoir, ça va super.
Ma première question que je pose sur vraiment la totalité de mes épisodes, c'est de savoir dans quel environnement est-ce que tu as grandi ?
Bah écoute, vraiment ce qu'on pourrait appeler la classe moyenne, c'est-à-dire que je te fais pas l'entrepreneur, je suis né dans la rue, j'étais clochard, je suis devenu riche et fort, pas du tout. Classe moyenne, donc mon père a toujours travaillé, ma mère était plutôt femme au foyer. Vraiment la famille classique, j'ai vécu un peu de tout, c'est-à-dire que pas spécialement de problèmes d'argent quand mon père travaillait et était relativement bien payé. Alors attends, parce que c'était pas, on roulait pas sur l'or non plus, mais je sais pas, son salaire en francs à l'époque c'était quelque chose comme 10 000 francs, tu vois, ce qui était bien à l'époque, parce que ça fait pas 3 000 euros, mais ça fait plus aujourd'hui. Mais il y a aussi eu des périodes où il a été viré, où il a eu des problèmes, où il a démissionné, etc. Donc, j'ai aussi connu les périodes où il était au chômage et où c'était compliqué. Donc, j'ai un peu connu les deux périodes, mais jamais super, extrême, ni dans un sens, ni dans l'autre, quoi. Donc, famille classique, classe moyenne et enfance heureuse, rien de fou, pas de truc complètement dingue dans mon enfance.
Est-ce que tu te souviens de tes premières passions ?
Globalement, moi, j'ai toujours été passionné par essayer plein de trucs plus que le truc que je fais. Et ça vient aussi sûrement de mon enfance. Mon père m'a beaucoup montré que on pouvait essayer un peu ce qu'on voulait et qu'on pouvait un peu tout faire à partir du moment où on apprenait à le faire. Donc j'ai vraiment essayé plein de trucs et notamment plein de sports. Et donc j'aime beaucoup le sport. C'est une de mes passions et si tu veux, je suis un petit peu plus spécialisé, on va dire, dans tous les sports d'air. Donc moi, j'aime bien tout ce qui vole, que ça soit avion, planeur, parachutisme, etc. Donc l'air, c'est plutôt mon élément. J'aime pas trop la plongée, par exemple, à l'inverse. Et voilà, c'est mes premières passions, c'est ça, c'est les sports d'air, les sports au sens large et apprendre des trucs. Et c'est comme ça que ça a commencé, ouais.
Ok, très cool. Et comment est-ce que tu vis tes études ? Qu'est-ce que tu vas faire ensuite pour tes études ?
Alors moi, j'étais l'élève pas trop con, mais extrêmement flemmard. C'est-à-dire que toujours la moyenne, pas plus, pas moins. Si je travaille le moins possible, je prends de l'avance le plus que je peux. Je passe toujours en roue libre. Tu vois, moi j'ai eu le bac par exemple avec 10,02 de moyenne. 10,02, tu vois. Donc voilà, je fais toujours l'effort minimum pour le résultat maximum, j'ai jamais redoublé, je suis toujours passé de classe en classe, etc. Mais sans, ce qui m'intéressait plus, c'était les copains et faire des trucs et penser à faire des projets, que ça soit, c'est comme tous les gamins, quoi, faire des groupes de musique, des trucs comme ça, du théâtre, tout ce que tu veux. plutôt que l'école en elle-même. Et c'est aussi pour ça que j'ai pas voulu faire d'études. J'ai toujours dit, dès que j'aurai le bac, je vais travailler. Et c'est ce que j'ai fait. Dès que j'ai eu le bac, j'ai travaillé. J'ai fait plein de merde au début. Et puis finalement, ça s'est fait comme ça, tu vois, l'entrepreneuriat, etc. Mais je voulais pas du tout. Pour moi, c'était assez chiant, ce système école, pour que, tu vois, tu commences à avoir le choix, entre guillemets, quand t'as le bac. C'est-à-dire que tes parents, ils te saoulent toujours. En tout cas, moi, les miens, c'était ça, pour que t'aies à tout prix le bac, faut que t'aies le bac, blablabla. Donc, je dis, vas-y, j'y vais, mais après, salut. Et donc, du coup, j'en ai profité. Je me voyais pas rajouter encore des années d'études, ça m'a saoulé, quoi.
Est-ce que tu te lances dans l'entrepreneuriat juste après tes études, ou est-ce que, justement, j'imagine que tu fais pas mal de jobs, tu testes pas mal de trucs?
Ouais, je fais des petits boulots, clairement. Je faisais de l'animation à cette époque-là, tu sais, tout ce qui est village vacances, etc., etc. Et quand t'es jeune, vraiment, t'as 18 ans, c'est trop cool. Donc, je fais ça pendant un grand moment, d'aller de village en village, de colo en colo, etc., vraiment en mode très roots. Et je fais plein de petits boulots parce que je sais qu'il faut que je travaille, et je travaille. Et d'ailleurs, je suis pas flemmard du tout. Mais bah, quand t'as pas spécialement d'études, en effet, tu prends ce qui vient, quoi. Donc, je fais beaucoup d'intérim, j'ai fait beaucoup de chantiers, ce qui m'a aussi appris à faire des travaux. J'ai fait plein de travaux manuels à la con, j'ai fait un peu de service, etc. Donc j'ai toujours kiffé travailler, même des boulots de merde, et bouger pas mal. Donc ça s'est plutôt bien goupillé. Et vu que j'étais déjà un peu énervé dans mon état d'esprit, bah, je cherchais en effet des moyens de gagner plus. Mais tu sais, au début, de façon toute bête, c'est-à-dire que bah, quand j'étais animateur, après, j'ai vu que bah, le directeur ou le directeur adjoint du truc, il gagnait plus. Donc hop, je passe le truc pour être directeur adjoint, et je suis directeur adjoint, super, je gagne 200 balles de plus. Et juste, j'étais dans ce délire-là. Après, je tentais plein de trucs, et il s'est passé un truc très bizarre dans mon parcours, c'est qu'un jour, au hasard d'un stage où j'étais pas content à l'intérieur, je me dis qu'il faudrait que je trouve peut-être quelque chose de plus stable et de moins je tente tout ce que je peux et je finis pompier professionnel. Parce que je sais pas, je me demande même pas pourquoi. Le métier avait l'air cool, j'ai vu qu'il y avait un concours, j'ai vu qu'il fallait faire du sport, que tout le monde t'aimait bien, que t'étais beau et jeune et que peut-être que ça marchait bien avec les filles. Donc du coup, c'était à peu près ça le niveau de réflexion à l'époque, tu vois. Donc du coup, je passais le concours, je l'ai eu, je suis devenu pompier professionnel, ce qui m'a rendu fonctionnaire.
T'as fait ça quand même pas mal d'années.
Ouais, je suis resté 7 ans en tout, mais je suis pas vraiment resté 7 ans puisque à l'intérieur des 7 ans, j'ai mis des années sabbatiques justement pour travailler sur mes projets, notamment immobiliers. Mais oui, ça a été une période de 7 ans de ma vie où j'ai fait ça, ce qui m'a permis d'avoir un statut, d'avoir un CDI qui était quand même vachement plus stable que ce que je faisais avant, et donc de commencer à investir dans l'immo. Et c'est là vraiment que l'énervement que j'avais, mais en mode tout feu, tout flamme, chien fou, je sais pas ce que je fais, mais je le fais, c'est un petit peu structuré et ça a commencé à accélérer vraiment, d'abord vers l'immobilier, puis après le marchand de biens, puis après un peu d'agence immo, puis après de l'entrepreneuriat, un peu plus structuré, quoi. Et ça s'est mis en place vraiment à partir de ce moment-là.
Ouais, parce que du coup, tu démarres l'immo en side project, entre guillemets.
Ouais, complètement.
Qu'est-ce que tu retiens de ces années justement en tant que pompier? Et qu'est-ce qui va faire que tu vas justement te lancer sur des sides dédiés à l'IMO?
Ouais, bah, ce que je retiens, c'est beaucoup de plaisir. C'est très cool, tu vois. C'est un métier qui est compliqué, mais il y a une très bonne cohésion. J'avais beaucoup de potes. Si tu rentres dans le moule un petit peu du pompier, c'est-à-dire, ta vie, c'est faire du sport et être avec tes copains de la caserne. C'est cool, tu vois. Par contre, si tu veux voir un peu plus loin, c'est vite limité. Donc, j'étais un petit peu très heureux, mais quand même un petit peu le cul entre deux chaises. Et puis, surtout, moi, je sais pas, ça vient sûrement de mon enfance, j'en sais rien, mais j'ai ce truc dans mon cerveau de toujours vouloir changer, pas forcément changer, mais grandir, tu vois, faire plus, tu vois, comme dans un jeu vidéo, faire plus de points, un petit peu cette idée-là. Et donc, je me dis, faut que j'investisse l'immobilier, je me mets à fond, tac, tac, je commence à faire de l'immobilier, ça marche. Et au bout d'un moment, bah, juste, tu te rends compte que tu peux faire plus. Tu te rends aussi compte que l'argent, c'est bien quand on a. Ça tout des portes, tu vois. Je commençais à faire des opérations de marchand tout en étant pompier. Je gagnais quand même beaucoup plus que mes collègues, même s'ils ne le savaient pas, ou ils le savaient, mais ils ne savaient pas les chiffres. Et donc, je me rendais compte que j'avais un niveau de vie qui n'avait rien à voir. Quand je partais en vacances, moi, j'allais à Cancun dans un 5 étoiles avec mon associé, et puis eux, ils partaient dans la Creuse, tu vois. Je me suis aussi rendu compte que ça c'était la liberté, je le savais déjà. Et du coup, j'ai eu cette envie de faire plus et d'accélérer, tout simplement. Et toute ma vie depuis, enfin même depuis toujours, c'est comme ça, j'ai envie d'accélérer. Et donc, je me suis très vite rendu à l'évidence de me dire, OK, même si je passe les concours de lieutenant, que je deviens officier, que je deviens grand chef, que je deviens même colonel, tu vois, je me rappelle avoir vu la fiche de paye du colonel, donc du plus haut gradé du département un jour, parce que anecdote, ils nous envoyaient les fiches de paye à la caserne dans des enveloppes, mais elles étaient un peu transparentes, les enveloppes. Donc, si tu regardais comme ça au soleil, tu voyais combien les mecs y gagnaient. Et je me rappelle que le mec qui gagnait le plus du département, il gagnait, je sais plus, je crois que c'était 7000 euros ou 7500 avec les primes, tu vois, avec les trucs. C'était pas un chiffre de fou. Oui, c'est beaucoup, c'est un bon salaire, mais c'était pas un truc de malade, tu vois. Et là, ça m'a mis un coup. Je me dis, attends, le gars, il a 50 ans de carrière ou 40 ans. Il a fait tout. Il a bien pompé les bonnes personnes, tu sais, pour arriver en haut. Parce que là, c'est plus du travail de terrain, tu vois, tu rentres dans la politique, etc. Et en fait, il gagne sa vie, mais je suis pas impressionné, tu vois. C'est-à-dire que sur ma dernière OP de marchand, j'ai fait un an de son salaire. À aucun moment, je suis un trou du cul. Donc ça m'a un peu choqué. Et je me suis dit, il va falloir se barrer au bout d'un moment, quoi. Et voilà. Et donc, c'est ce qui s'est passé.
Comment est-ce que ton entourage perçoit justement cette évolution autour de toi? Tu vois, justement, augmentation de revenus, augmentation de tes conditions de vie aussi.
Bah, malheureusement, alors je vais être très clair avec toi, il n'y a pas de miracle. Hein. C'est-à-dire que les amis qui suivent le mouvement, il y en a très peu. C'est-à-dire que tu as vraiment les amis d'enfance, etc., qui voient ton évolution. Et bon, bah, eux, ils suivent, ils voient que ouais, c'est génial, t'exploses, et ils sont contents pour toi, et tu les gardes. Ça se compte relativement sur les doigts de la main pour moi, genre 2-3 personnes. Non, un peu plus, allez, 5-6. Tous les autres, ben, c'est des phases, quoi. C'est-à-dire que tu les vois plus, ou tu les vois moins, ou tu les vois une fois tous les 5 ans, et puis ça te fait plaisir parce que tu te rappelles le bon vieux temps, mais voilà, c'est plus des gens proches. Et famille, pour moi, famille, c'est encore autre chose. C'est-à-dire que ils ont suivi un petit peu toute l'évolution depuis toujours. Donc, ils ont vu que j'étais un peu un électron libre. Donc, ça les étonne plus. Mais après, ils connaissent pas les chiffres, tu vois. C'est-à-dire que. Parce qu'ils sont pas dans le même délire. C'est-à-dire que si je prends mon frère, par exemple, j'ai un frère. Qui est pas du tout dans faire de l'argent, qui est pas du tout dans monter des boîtes, etc. Lui, s'en fout complet. Il y a un moment où au début, tu sais, quand tu commences à faire, tu dis, ah, je gagne 2000, je gagne 3000, je gagne 4000, je gagne 6000. Après, j'ai arrêté de lui parler et de lui dire ça parce qu'on est, un, il s'en fout, deux, j'ai l'impression que ça me met, tu vois, en porte-à-faux. Donc, ma famille sait que je suis énervé, ma famille sait que j'ai des résultats, et bien sûr, ils savent que j'habite à Dubaï, que j'achète des maisons, des machins. Mais ils savent pas à quel point, et c'est bien. Et je pense qu'il faut accepter ça. Et en effet, j'en parlais d'ailleurs moi aussi sur un podcast, sur le mien pour le coup. Désolé, on est en concurrence. Mais
ah non, il y a pas de concurrence. Tu t'inquiète, on mettra le lien en description.
Je sais. je parlais de la malédiction du succès. Et en fait, ça marche pas qu'avec l'argent, les résultats financiers, ça marche un peu avec tout. J'ai l'impression. C'est-à-dire que quand tu commences à faire des trucs très différents de la masse. Que ça soit dans le sport, que ça soit t'es un artiste, que ça soit t'es un entrepreneur, tu vois, tu commences à rentrer dans une catégorie faible de la population, 1%, 0,1%, peu importe, par rapport à monsieur, madame, tout le monde, bah forcément, tu fais face à de l'incompréhension. Mais que tu sois chanteur, acteur, danseur, chef d'entreprise, peu importe. Et c'est un peu la malédiction du succès. C'est-à-dire que si tu veux être parmi les meilleurs, bah tu dois viser ce 0,1, 0,01% des gens qui font le mieux ce que tu fais. Mais ça, de fait, t'exclut du 99,999% de la population, dont ta famille, dont tes amis. Et donc, forcément, t'as cette ambivalence, cette malédiction qui est en place. Et ça fait que tu ne peux pas ou tu peux moins en parler. Ou alors, ça va être forcément moins bien, différemment interprété parce que ta vie actuelle est tellement différente de ce 99,9%. Mais pas que sur l'argent, hein. Je veux dire, un sportif de haut niveau, s'il s'entraîne 2 fois par jour et qu'il fait 30 heures par semaine et qu'il suit sa diète et qu'il sort pas et machin, c'est pareil, tu vois. Et en fait, de fait, si tu veux les résultats escomptés, t'es obligé de passer par là. Et ça, j'ai jamais trouvé de solution et je pense que j'en trouverai jamais, malheureusement.
Je pense qu'il n'y en a pas. Je pense qu'il n'y en a pas puisque c'est quelque chose que je retrouve beaucoup dans tous les épisodes que j'ai pu faire. Et puis même dans mon aventure aussi personnelle, où en fait, tu te rends compte que l'aventure fait que tu vas t'éloigner de certaines personnes et te rapprocher de d'autres finalement, et que tu te rends compte qu'il y a beaucoup de gens qui ne veulent pas ton succès, et au moment où justement t'es en réussite, tu t'enchaînes justement ces succès, ces gens-là vont créer de la jalousie et en fait vont soit s'éloigner de toi, soit par une autre manière finalement. Donc je suis très relié à ce que t'as dit.
Parfois c'est même pas de la jalousie, tu sais, c'est juste que le système de valeurs est tellement différent. Est tellement pas le même que c'est une pure incompréhension, tu vois. C'est comme quelqu'un qui est très dans, par exemple, je sais pas, le yoga, tu sais, les trucs très, très connectés, qui parle à un mec, à un scientifique super cartésien, tu vois. C'est-à-dire que le système de valeurs et de pensées ne fonctionne pas. Il entre en collision, tu vois. Et c'est un petit peu la même chose. C'est alors bien sûr qu'il y a la partie jalousie, mais il y a aussi la partie impossibilité de comprendre le parcours de l'autre. Et ça, voilà, c'est compliqué.
Ouais, c'est vrai. C'est un mix des deux, je pense. Mais ouais. C'est clair. En 2016, tu fais un switch, enfin un switch qui est quand même très connecté avec le reste. C'est que tu te lances sur YouTube. Aujourd'hui, sur YouTube, t'es à plus de 674 000 abonnés, plus de 78 millions de vues, ce qui est un giga succès en finalement 7 ans, 8 ans. Pourquoi est-ce que tu décides de te lancer sur YouTube à ce moment-là?
C'est un espèce de mix de croisée des chemins entre une demande du marché. J'entends des gens qui commencent à me demander, des gens physiquement, notamment des collègues à l'époque, qui commencent à me demander, OK, bah, comment tu fais l'immobilier? Ça a l'air cool, etc. Donc, une demande finalement et une espèce de tendance. C'est-à-dire quand il y avait les blogs avant. Donc, des gens qui racontaient leur histoire, qu'elle soit entrepreneuriale, business, investissement sur des blogs, ça y a une très grosse période. Et après, tout ça a commencé à migrer sur YouTube. Et finalement, 2016, on est pile entre les deux. On est entre les gens qui écrivent et les gens qui font des vidéos. Aujourd'hui, il y a quasiment plus que des gens qui font des vidéos, il y a quasiment plus de gens qui écrivent. À l'époque, il y avait quasiment que des gens, je dirais les années d'avant, 2010, 11, 12, 15, que des gens qui écrivent. Et on est pile, tu vois, 2015-2016 dans ce switch-là que j'identifie parce que je vois, parce que moi aussi, je suis des chaînes, je suis des trucs, je regarde. Et je me dis, bah, ça tue, quoi. C'est-à-dire que, ouais, je vais le tenter, je vais faire des vidéos, ça va me créer une audience, du coup, ça va faire grossir ma boîte, ça va me générer des activités supplémentaires, du réseau, etc. Et j'y vais un petit peu au petit bonheur, la chance. Et je me dis, si ça marche, tant mieux, et j'y vais à fond. Et comme ça, je fais une activité de formation, ce qui fait que, bah, en plus, avec une activité de formation, j'ai des revenus supplémentaires, ça me permet d'investir plus, enfin, boule de neige, tu vois. Et si ça marche pas, qu'est-ce que je risque? Pas méga grand-chose. Donc, je fais ça un peu en sous-marin. J'en parle pas du tout dans la vie normale. Parce que tu sais, autant aujourd'hui, Internet, ça y est, on a shifté, j'ai l'impression. Tout le monde est au courant qu'il n'y a plus d'anonymat sur Internet. Mais à l'époque, on était encore un petit peu dans la retenue. Et donc, j'en parle pas. Mais je le fais, quoi. Je me cache un peu. Je me rappelle que j'avais, sur les réseaux sociaux, notamment Instagram, j'avais bloqué tous les gens que je connaissais, tous mes potes, pour pas qu'ils voient que je fais des vidéos, etc. Ben voilà, j'avais la honte, quoi. Et je le fais, et ça marche, en fait. Ça marche très vite. Je sais pas pourquoi, parce que quand j'ai commencé, je me suis dit, OK, faut partir massif, donc je me suis dit, je fais une vidéo par jour pendant 30 jours. Après, je me suis dit, OK, je vais commencer à écrire un PDF, parce que je savais que si les gens, bah, ils pouvaient télécharger un truc, je pouvais récupérer leur email, leur envoyer des mails. Enfin, vraiment, j'étais en mode entrepreneur, tu vois. Après, le PDF s'est transformé en livre. Quand j'ai écrit le livre, je me suis pris au jeu de kiffer écrire le livre. Puis, vu que je l'avais annoncé aux gens dans les premières vidéos, bah, les gens me disaient, on attend le livre et tout. Et en fait, ça s'est lancé comme ça, très organiquement, très naturellement. Et ça a marché. Donc, à partir du moment où j'ai eu la preuve du concept que ça marchait, que j'avais une audience, je me rappelle très bien quand j'ai passé mes 1000 premiers abonnés, j'ai dit, all in. On y va. YouTube, c'est un vrai levier. C'est pas un petit truc à côté, peut-être. C'est un vrai levier. Et depuis, c'est toujours resté un vrai levier. Donc aujourd'hui, il y a beaucoup d'abonnés, il y a beaucoup de vues, c'est très cool, il y a une très grosse communauté. Et ça reste un levier, ça reste un petit peu du fuel qui vient se mettre dans les activités, quoi. C'est-à-dire que ça permet de montrer aux gens ce qu'on fait, ça permet d'être connu pour des gens qui ne connaissent pas et qui arrivent et qui tombent dans l'écosystème et qui voient qu'il y a plein de trucs à l'intérieur. Ça permet un peu de la notoriété avec les médias, avec des gens comme toi, des podcasts, etc. C'est un vrai levier, en fait, de tout ça, d'être mis en avant. Et forcément, bah, si t'es mis en avant, ta boîte est mise en avant, et voilà. Mais ça s'est fait très naturellement.
Clairement, tu deviens ton propre média, ce qui aujourd'hui est devenu quelque chose de très démocratisé, puisque finalement, de plus en plus d'entrepreneurs deviennent leurs propres médias. Mais finalement, toi, t'es assez précurseur, puisque en 2016, il n'y avait pas autant, justement, d'entrepreneurs sur YouTube.
Ouais, aujourd'hui, maintenant, tout le monde connaît le storytelling, le fait de mettre en avant le chef d'entreprise. Mais à l'époque, on se cachait, tu vois, on avait honte. C'était l'inverse. Mm. J'ai l'air vieux quand je dis ça.
Non, pas du tout. Non, mais c'est clair que sur 2016, il y avait beaucoup de divertissement, etc. Mais en termes de business, bon, je sais que il y avait aussi les vidéos de The Family qui performaient pas mal sur le business d'une chaîne qui s'appelait Startup Food à l'époque, avec pas mal de confs business, etc. Mais c'est vrai que le contenu entrepreneurial était financier, etc., était quand même assez réduit en France, en tout cas. Allez, donc à ce moment-là, ta boîte s'appelle Think Big Edition,
ouais.
Si je dis pas de conneries. En 2017, tu rencontres tes futurs associés d'une boîte qui s'appelle Green Bull. Comment est-ce que se passe cette rencontre ?
Très simplement, je rencontre Jean-Guillaume, un des associés, dans un événement. Il me connaissait, donc il vient me parler. J'étais pas mal sollicité, parce que dans les événements, faut parler un petit peu avec tout le monde, etc. Donc on n'arrive pas à se parler, en fait. On arrive à se parler à peut-être 3h, 4h du mat, dans un état qui commence à être pitoyable. mais on accroche bien. Et il me dit, faut à tout prix que tu rencontres mes autres associés, on fait ci, on fait ça, il me pitch. Puis ok, donc on se revoit, peut-être, je sais pas, 3-4 jours après. On accroche, on se dit qu'il faut qu'on fasse des trucs ensemble. Je finis par les revoir, je sais pas, 2-3 semaines après. On lance un premier projet en joint venture pour voir un peu ce qui se passe. On accroche très vite, il me propose qu'on s'associe. Moi, j'étais dans une phase où j'étais en train de commencer à vouloir lever des fonds, notamment pour structurer des trucs. D'ailleurs, qui ne se sont pas du tout faits. Je voulais faire une espèce de... Tu sais, c'est marrant, j'avais complètement oublié cette histoire, ça raccroche vachement avec l'actualité. Je voulais faire une espèce de bot, alors pas IA à l'époque, parce que ça n'existait pas, mais une espèce d'automatisation de gestionnaire de patrimoine, en fait. Je voulais faire un CGP, mais en ligne. Et donc, j'étais en train de faire une levée de fonds pour faire ça, très à l'ancienne, avec business plan, tout le bordel. Et je la rencontre à ce moment-là, donc je suis un peu dans le moment de vouloir scaler. Mais je suis tout seul. Eux, ils sont dans le moment de vouloir scaler et de structurer Green Bull Group parce qu'à l'époque, c'était pas du tout comme c'est maintenant. C'était vraiment la structuration. Tout le monde venait travailler, on structurait un groupe, etc. Et donc, on se rencontre pile au bon moment, tu vois. Et donc, on se dit, vas-y, on se marie, on y va et on fait tout ensemble, quoi. Donc, finalement, on n'a pas fait l'espèce de bot de CGP. Je suis content qu'on l'ait pas fait, d'ailleurs. Et voilà, et on s'est mariés. On s'est mariés et voilà, et ça... C'est l'aventure d'aujourd'hui. Et aujourd'hui, il y a plus de 10 marques et sociétés. Enfin, beaucoup plus que ça même. J'ai complètement perdu le compte.
Ouais, exactement. Et voilà. Tu les rejoins du coup officiellement en 2018. Ouais. Donc Green Bull, c'est un groupe qui a pour mission d'éduquer et d'accompagner leurs clients vers la prise en main de leurs finances personnelles. Donc effectivement, avec plus de 10 marques sur des sujets très variés, aussi bien l'investissement que la food, par exemple, avec Yam Nutrition ou encore Perifish, que je connais très bien. Comment se passe justement cette aventure de 2018 à aujourd'hui, tu vois, les grandes étapes, entre guillemets, parce que je sais que finalement le groupe s'est diversifié au fil des années et au fil de ses acquisitions.
Déjà, je pense que quand il va, faut y aller et faut pas attendre. Des fois, faut savoir être rapide, faut savoir avoir de la vélocité. Tu dis on s'associe en 2018. Non, on fait les papiers en 2018. Donc, en effet, sur les papiers, on est associé en 2018. On s'associe immédiatement en 2017. Et peu importe les papiers, qui, quoi, comment, on s'en fout, on travaille ensemble et on a un contrat moral. On sait comment ça va se passer. Certes, on n'a pas régularisé l'association parce qu'on n'a pas signé et que c'est pas enregistré, mais on s'en fout. Et ça, je pense que parfois, il faut savoir, et notamment dans une association là où tu pars en mariage, faire confiance. Donc, on s'est fait confiance mutuellement et ça a marché. En effet, ça a été régularisé après. Comment ça s'est passé? C'est très simple. En fait, au début, on était en effet axé sur les finances parce qu'on avait trois grandes verticales qui étaient l'investissement, notamment immobilier, via de la formation, de l'investissement en direct, des différents écosystèmes, que ce soit marchand de biens, investissement locatif, etc. Les finances et notamment les marchés financiers avec du software, également de la formation, etc. Donc, tout ce qui est trading, investissement long terme, crypto. Et du private equity où on structurait des deals, notamment via notre filiale myclubdeal.com qui permet tout simplement de prendre des participations avec nous sur des deals de private equity. Pas startup, pas funding, mais grosse. Et donc, il y avait ça. Et on disait, ouais, la mission du groupe, c'est révolutionner les finances, c'est aider les gens à faire de l'argent, etc. Ce qui est vrai, mais ce qui est limitant. Et donc, ce qui se passe là avec les années, c'est que on se rend compte que quand on est entrepreneur, on peut tout faire. C'est-à-dire que si tu... Enfin, c'est pas qu'on est les meilleurs, hein, c'est juste que c'est un peu toujours la même chose de scaler une boîte. Alors oui, ça va changer, forcément, tu scales pas un resto comme tu scales un SaaS en ligne, mais globalement, les grands principes de l'entrepreneuriat font que plus tu l'as fait, plus ça devient automatique et facile, entre guillemets, même si c'est jamais facile. Et donc, on s'est dit... Si on veut grossir et si on veut atteindre une taille critique et dans les années à venir, il faut qu'on, qu'on fasse, bah, comme toutes les grands groupes l'ont fait avant nous, quoi. C'est-à-dire qu'on fasse du M&A, qu'on fasse rentrer des boîtes, qu'on prenne des participations, qu'on rachète des boîtes soit concurrentes, soit complémentaires, et qu'on grossisse comme ça. Donc aujourd'hui, on n'a plus aucune limitation. C'est aussi pour ça qu'on est allé dans la food, parce qu'on pense que c'est une industrie qui est complètement nécessaire, qui est en plus en cours de révolution avec tout ce qui se passe. Et pourquoi se limiter, quoi? Donc aujourd'hui, on n'a plus aucune limite. Donc c'est pour ça qu'on va dans la food. C'est pour ça que là, on va annoncer des trucs très bientôt. Mais voilà, on a plus de limites sur les industries qu'on fait. Et le but, c'est de fonctionner sur un mix de croissance et de croissance externe et de consolider au fur et à mesure comme ça et de créer vraiment ce qu'est un groupe. Aujourd'hui, c'est vachement à la mode. Je vois plein d'entrepreneurs qui mettent groupe dans leur truc. Machin groupe. Je vois, tu sais, le nom du gars, groupe. C'est-à-dire que c'est l'antithèse du groupe, ça. C'est tout seul. Donc, le principe d'un groupe, c'est d'avoir un groupe de sociétés, éventuellement un groupe de personnes. Donc voilà, mais bref, parenthèse. Et donc, c'est ça qu'on vise, quoi. C'est du Virgin Group, du LVMH, des entités qui font de l'argent, qui permettent de réinvestir, qui permettent de faire grossir le bateau et de créer un empire comme ça, très clairement. C'est le but.
Très clair. Entre 2018 et aujourd'hui, il y a eu un événement qui a marqué, entre guillemets, le monde entier. Qui a eu un impact aussi négatif que positif, finalement, sur pas mal de sujets, qui est la pandémie mondiale. Comment est-ce que se passe, justement, la pandémie sur 2020, 2021, voire 2022 pour Green Bull?
Eh bien, écoute, plutôt bien. Plutôt bien, parce que on a eu au début des produits de la chance, clairement, qui correspondaient avec le confinement, c'est-à-dire toute la partie formation en ligne. Les gens, pendant le confinement, ils pouvaient se former. Il y a eu, en plus, l'État qui a voulu relancer le truc, qui a mis de la subvention, etc. Donc, ça nous a aussi aidés. La partie trading, investissement, pareil, les gens, ils étaient chez eux, ils avaient rien à faire, ils se disent « Ok, je peux me former, etc. » Donc, vraiment, pendant toute la partie confinement, ça s'est plutôt bien passé pour nous. Par contre, après, ça a commencé à beaucoup plus mal se passer parce que oui, il y a une relance économique, mais pas trop sur nos activités à nous. C'est-à-dire que les gens, ça y est, ils sortaient de chez eux. Qu'est-ce qui repartait? C'était les voyages, les hôtels, la consommation globale, etc., etc. Les produits physiques. Et là, on a su faire un pivot également d'investir massivement sur Dubaï parce que ce qui s'est passé, c'est qu'à Dubaï, qui est un pays d'expats, 90% des gens sont expatriés. Qu'est-ce qui se passe? La pandémie arrive, tout le monde se chie dessus. Les gens rentrent chez eux, ils partent, ils fuient carrément, ils vendent tout ce qu'ils ont. Il y en a d'autres qui sont bloqués à l'étranger, etc. Nous, ça ne nous effrayait pas plus que ça. On est restés, comme plein d'autres gens. Et par contre, les prix de l'immobilier ont complètement crashé, puisque forcément, un pays qui est basé sur des expats qui se barrent, tout le monde panique, tu vois. Donc là, on a dit, on y va massif. Et on y allait massif fort. Et du coup, ça a été un de nos meilleurs moves après la pandémie, parce que on a vraiment acheté à la casse, on a vraiment acheté distress, et après ça a commencé à remonter, le monde entier s'est rendu compte que finalement c'était pas grand chose, mais les prix, ça met du temps à se stabiliser, tu vois, quand il y a un vrai mouvement, on parle de prix qui ont été divisés par deux, par trois parfois, donc quand tu as eu un mouvement très très important comme ça, forcément ça met du temps à remonter, donc on a aussi continué à transformer l'essai, à revendre les premiers et à racheter toute la montée. On en achète encore aujourd'hui, même si on commence à se calmer parce qu'on a beaucoup de stock là. Et voilà, et on a vraiment fait ce move de dire, OK, parfois, il faut savoir concentrer, il faut savoir appuyer sur le champignon. Tout le monde parle de la diversification, c'est génial, machin, etc. Oui, la diversification, c'est bien parce que ça va diminuer la variance, ça va diminuer la volatilité. Par contre, ça va diminuer les perfs aussi. Parfois, quand tu as une très forte conviction que tu as identifié quelque chose, il faut savoir appuyer sur le champignon. Là, on a appuyé fort. Donc, on a investi 160 millions à date sur Dubaï. Ça commence à faire et notre argent personnel via trois leviers, notre argent personnel, l'argent du groupe, de l'entreprise, et des levées de fonds et des investisseurs, qu'ils soient particuliers ou institutionnels. Mais on a su y aller, tu vois, on a su structurer, et ça a été un vrai move. Donc si tu veux, nous, la pandémie, et pendant et après, ça s'est bien passé et on a su négocier le truc. Voilà. Donc parfois, faut tout simplement jouer avec ses cartes.
C'est exactement, et c'est souvent ce qui arrive, surtout dans les entrepreneurs, c'est que la pandémie a été un booster pour beaucoup, et ça a eu un impact positif pour beaucoup aussi. En termes de business en tout cas, donc c'est intéressant justement de voir tout ça. J'aimerais faire un focus sur l'acquisition l'investissement dans Perifish en début d'année. Comment est-ce que ça s'est passé justement ce rapprochement au moment où vous avez justement pris contact avec Perifish et au moment où le deal a été bouclé?
Bah, ça s'est passé très naturellement, un peu de la même façon que l'association avec mes associés, c'est-à-dire que, enfin, les associés Greenbull dont on parlait au début, c'est-à-dire que eux, ils étaient sur un pivot où ils voulaient structurer, ils voulaient franchiser, ils voulaient grossir, mais ils étaient aussi sur des difficultés instantanées, parce que forcément, c'est difficile de scaler un resto, deux restos, trois restos, surtout après la pandémie, surtout quand t'as des galères. Donc, ils étaient sur des difficultés instantanées, mais la volonté d'aller loin est fort. Nous, on était sur la volonté de faire des acquisitions et de prendre des participations et d'aider des boîtes à scaler. On les connaissait déjà parce qu'on bossait ensemble sur d'autres trucs, notamment leur agence de com, etc. Et donc, au bout d'un moment, c'est relativement naturel, tu vois. Ils savent qu'on fait du M&A, on sait qu'ils ont besoin de quelque chose, on s'est parlé. Ça a pris longtemps, mais forcément, comme tout ce genre de deal, il y a toute la partie structuration. Mais ça s'est super bien passé et je suis très positif sur Perifish. Je pense que le concept il fracasse, je pense que ça va exploser. Il y a déjà pas mal de franchisés qui ont été signés. Je pense qu'on va atteindre l'objectif et que ça va devenir un gros truc. Et internationalement, je pense aussi que ça peut fonctionner, notamment à Dubaï, avec toute la partie musulman, donc burger de poisson, très cool. Même pas que musulman, d'ailleurs toute confession, parce que ici t'as aussi l'histoire avec les hindous, etc. qui peuvent, enfin bref, le poisson, ça marche de fou, quoi, ici. Donc j'y crois beaucoup et je pense que ça va exploser. Mais tu vois, c'est toujours d'abord une espèce d'aventure humaine qui est toujours un peu par hasard. Tu vois, c'est-à-dire que tu rencontres des mecs une première fois, tu fais certains trucs ensemble, ça a l'air de rien, et puis un mois, 6 mois, 1 an, 2 ans après, t'entends que lui il fait ça, lui il cherche ça, tiens lui il cherche un associé, lui il cherche une levée de fonds, lui il vend sa boîte, et c'est comme ça que ça se passe. Donc en fait, je pense qu'il faut surtout semer des graines quand on est entrepreneur, de faire en sorte d'aller dans des événements, de parler à des gens, de réseauter. Alors pas non plus à tomber complètement fou de ça, parce qu'il y a des gens qui ne font plus que ça, j'ai l'impression. Donc pas tomber le boulimique, tu vois, de pas travailler non plus, mais il faut trouver le juste équilibre de faire marcher sa boîte, mais aussi essayer de se rapprocher de gens qui font la même chose ou qui ont la même vision. Pas forcément la même chose, tu vois, parce que Perifish, au départ, nous, qu'est-ce qu'on s'en fout des restos, tu vois, au départ, en tout cas. Même si on a des associés qui ont un certain passé, Benoît a un restaurant, moi j'ai eu un bar, etc. Mais de base, on n'allait pas forcément vers la food, tu vois. C'est juste que ça a fait du sens au niveau timing. Et il faut juste savoir créer sa chance. Et je pense que l'entrepreneur, c'est beaucoup ça. C'est beaucoup jeter des cannes à pêche, des lignes. C'est comme un mec qui pêche avec, tu sais, dans la barque, il a 5 cannes à pêche, il a quand même un petit peu plus de chance de choper un truc que le mec qui est juste avec son petit bout de bois tout seul. Donc c'est un peu l'idée. Mais ouais, ça c'est, il y a pas eu de truc complètement dingue avec Perifish, et c'est très naturel. Et puis les mecs, on les aime bien. D'ailleurs, ils étaient là il y a pas plus tard qu'hier au bureau, et on a la même mentalité, quoi. C'est des gens qui sont énervés, qui veulent aller de l'avant, donc nous aussi, quoi.
Ouais, je suis convaincu que le fit humain, tu vois, c'est la base de tout, et qu'en fait, à partir du moment où ça fit humainement, derrière, ça va créer des amitiés, ça va créer du business, ça va créer plein de trucs qui vont se créer justement complètement naturellement et sans aucun intérêt objectif de départ, tu vois. C'est ça qui est ouf, justement, avec l'entrepreneuriat et avec les rencontres, finalement, aussi bien sur un podcast que sur n'importe quelle aventure entrepreneuriale.
Ouais, complètement. Et puis parfois, tu sais pas ce que la personne peut t'apporter. C'est-à-dire que au départ, eux, si je me mets dans leurs chaussures, Greenbull, qu'est-ce qu'ils vont faire? Nous, on fait des restaurants, tu vois. Mais nous, on a la technicité et la connaissance des montages, notamment financiers ou l'ingénierie fiscale ou l'ingénierie financière pour les levées de fonds, etc., qu'ils avaient pas, tu vois. Et ça, justement, ils ont été capables de l'identifier et de se dire, ah ouais. Ça va pas se faire avec 0 euro et d'aller à 100 franchises, tu vois. Ça va pas se structurer facilement. Et donc, c'est plus un fit. Bon, il y a bien sûr le fit humain dont tu parles, etc. Mais c'est de savoir identifier aussi les compétences de l'autre. Parfois, la niche, ou en tout cas la spécialité entrepreneuriale n'a rien à voir, mais les connaissances, tu vois. Et c'est pour ça qu'on disait que c'est toujours plus simple après, même si l'entreprise a rien à voir, c'est toujours plus simple de continuer parce que ces connaissances-là, ce socle de structuration, en l'occurrence, c'est le même, quoi.
Ouais, non mais c'est clair, c'est un fit global plus que qu'humain, ça c'est sûr. Aujourd'hui, Yann, t'es un serial entrepreneur à succès, t'es aussi un créateur de contenu suivi par beaucoup de gens. C'est quoi tes objectifs futurs ?
J'ai pas de grand objectif, tu sais, où je vais dire ça y est, j'ai atteint, j'arrête. Ça j'ai pas. J'ai des objectifs. Là, j'ai les plus immédiats, si tu veux. Je veux emmener la chaîne à 1 million là très vite. On est 670 000 abonnés ou je sais pas combien. Je veux qu'on aille à 1 million là très rapidement parce que je sais pas, juste pour le milestone. Je veux qu'on aille à 1 milliard de valo avec Green Bull. Je veux qu'on aille à 1 milliard de valo avec Green Bull parce que pareil pour le faire. Donc ça c'est vraiment deux objectifs, on va dire court terme, court moyen terme. Et puis après voilà. je suis pas le gars qui a un truc et qui dit voilà j'ai fini. Ça arrive pas.
Non mais bien sûr, c'est plutôt des étapes que des objectifs. C'est-à-dire que ouais. Les prochaines étapes, c'est plutôt ça, et après il y en aura d'autres, etc., etc. Enfin jusqu'à la fin entre guillemets. On passe à la partie bilan de ton aventure avec deux petites questions. La première, c'est quel a été le moment le plus difficile de ton aventure entrepreneuriale ? Parce que là finalement, quand on déroule tout au parcours. Tout semble, finalement, on dirait que tout s'est très bien passé, mais j'imagine qu'il y a eu des moments un peu plus difficiles et qu'il y en a eu beaucoup. Quel a été justement ce moment le plus difficile pour toi ?
Je suis pas quelqu'un qui me rappelle de détails et de dates et de trucs comme ça. Donc là, tu vois, c'est impossible dans mon cerveau d'aller te trouver le moment le plus difficile et de dire nanana. Mais par contre, ce qui est sûr, c'est que c'est difficile tous les jours, mec. Hier, j'en avais plein le cul. Je suis rentré chez moi. Lessivé, j'avais juste envie de boire du vin, tu vois, pour me détendre et de débrancher mon cerveau. C'est dur tous les jours, c'est dur encore aujourd'hui, parce que les risques sont toujours là, les montants sont plus gros, t'as beau faire plus d'argent, tu t'exposes plus. Donc, c'est de plus en plus gros ce qu'on structure, ce qu'on rachète, ce qu'on discute. Je peux pas balancer des dingueries, mais. Enfin, je voudrais parfois que les gens soient dans des réunions en mode petite souris, mais tu sais, on a toujours le même paradoxe, 99% et 1%, tu vois. Mais il y a vraiment, c'est des dingueries de chiffres que je voyais dans les films, tu vois, avant, de discussions complètement lunaires, de dire, bah là, il faut 10 millions, bah là, oui, si tu récupères ça, etc. Et donc, c'est dur tous les jours, et c'est putain de dur. C'est tout ce que je peux te dire. Et il n'y a aucun moment où je me dis c'est facile, il n'y a aucun moment où je me dis je suis arrivé. Il y a toujours un challenge, il y a toujours un truc qui marche pas et des trucs parfois tout cons, tu vois. Ben il y a une personne clé dans le staff qui est malade, quoi, qui est en arrêt maladie parce que ben la pauvre elle est malade. Et ben donc du coup ben il faut, t'es en plein lancement, tu vois, où t'allais déployer un site de malade et puis il y a le Black Friday, tu vois. Et donc tu bouches les trous, tu galères, tu te lèves plus tôt, tu te couches plus tard, ça marche pas, il y a des bugs, les clients ils sont pas contents, mais du coup bah ça, moi ça m'emmerde, donc forcément on attaque. Et c'est que ça, c'est des exemples au hasard que je te donne, mais c'est que des petits trucs comme ça et c'est jamais fini. Et c'est ça l'entrepreneuriat, c'est putain de dur. Et c'est sûr que t'es pas salarié en mode je viens 8 heures, je fais mon taf, je fais ce que j'ai à faire, je pars et j'ai tout oublié. Malheureusement c'est pas comme ça. Donc, j'ai pas de cas précis, j'ai aucune idée de mon truc le plus dur, mais tout ce que je te dis. Mon truc le plus dur, c'est depuis toujours, quoi, en fait. c'est dur.
Comment ça, les galères s'arrêtent jamais quand on est entrepreneur ? Comment ça ?
Voilà, ça s'arrête jamais.
Non, c'est une très bonne réponse. C'est une très bonne réponse. Alors, du coup, l'autre question, est-ce que tu vas t'en souvenir, mais quel a été le moment le plus marquant positivement de ton aventure ? Est-ce qu'il y en a un ? Ça peut être le plus récent, tu vois, parce que pareil, des moments marquants.
Je vais faire en sorte de trouver un truc. Qu'est-ce qui s'est passé récemment? Il y a un truc qui s'est passé récemment, bon, qui est pas forcément le plus marquant, mais ça va parler aux gens. On a un gros investisseur, donc qui avait investi. On parlait de l'immobilier à Dubaï. Notre plus gros mec qui avait investi avec nous, 30 millions la première fois. Donc ça s'est pas fait facile. Hein, il a fallu négocier, etc. Et montrer patte blanche. Récemment, il a réinvesti avec nous. Donc tu vois, pour moi, ça, c'est super significatif. Donc là, on parle d'un mec vraiment qui pèse, tu vois, milliardaire, etc. Au début, il met une petite, ce qui pour lui est une petite allocation, hein, un petit 30 bars pour voir comme ça. Et il est content, on l'a même pas remboursé du premier investissement. C'est-à-dire que c'est pas tout débouclé et il met une deuxième ligne avec nous. Donc ça, tu vois, c'est des trucs qui font chaud au cœur parce que c'est pas que t'as un mec qui investit avec nous. C'est pas que t'as un mec très riche qui investit avec toi. C'est que t'as un mec qui s'est fait tout seul et qui est là où il est et qui est un entrepreneur bien meilleur que nous, forcément. Parce qu'au bout d'un moment, l'argent, c'est les points. Hein. Donc, si le mec est milliardaire, il est meilleur que moi. S'il n'a pas hérité, en tout cas. Il n'a pas hérité. Et donc, d'avoir sa confiance, et d'avoir son approbation et ses conseils, etc., ça prouve qu'on fait les choses bien. Et tu vois, ça, c'est au-delà de l'argent, c'est un vrai truc marquant. On se dit, putain, si lui, là, ce gars-là, il est content, c'est cool, on va dans le bon sens. Donc voilà, ça, c'est un truc récent, mais qui a été marquant pour nous. On s'est dit, ah, putain, on est content, tu vois.
C'est hyper important et hyper précieux, justement, d'être validé par des gens qui sont meilleurs que nous. Ouais. Je pense que pareil, dans une aventure, tu vois, c'est un énorme booster, justement, d'avoir cette validation, et plus que cette validation, finalement, un investissement de cette taille, entre guillemets, plus cette confiance, c'est forcément un booster pour la suite, quoi. On passe à l'avant-dernière partie du podcast sur les rencontres, le mindset et l'entrepreneuriat, avec des questions un peu plus génériques. La première, c'est est-ce que tu peux me parler d'une rencontre en particulier qui a marqué ton aventure ? Alors, je sais que des rencontres, il y en a beaucoup, beaucoup, beaucoup. Mais est-ce que tu peux m'en parler d'une en particulier ?
Bah, vraiment, celle qui a vraiment changé ma vie, pour le coup, professionnellement et dernièrement, et même pas que professionnellement, parce que tout s'est enchaîné, c'est de rencontrer mes associés, clairement. Parce que j'ai vraiment scalé, et c'est-à-dire qu'on a scalé tous ensemble, d'ailleurs. Mais on est passé de tous entrepreneurs dans notre coin, à faire nos trucs, à investir, à entreprendre, à tous entrepreneurs ensemble, à distance. Ensuite, tout le monde a déménagé dans le sud. On est passé à entreprendre dans le sud, monter les bureaux, recruter les premiers gens, etc. Ensuite, on a dit « Ok, si on veut scaler, etc., on veut aller à l'étranger. » Moi, ça faisait très longtemps que j'avais envie de me barrer de la France. Je ne voulais même pas aller à Dubaï, je voulais me barrer de la France. J'étais pas le seul, donc on a commencé, il y en a deux qui sont partis, après deux qu'on rejoint, etc., après tout le monde, mais on a quand même gardé le siège en France, avec, donc on a trois emplacements aujourd'hui, France, Suisse, Dubaï, avec des salariés en France et à Dubaï, à peu près 50-50, on est à peu près une soixantaine dans le groupe aujourd'hui, et le siège est en France, mais les activités Dubaï nous permettent déjà nous de vivre à Dubaï, parce que clairement je l'assume et je suis désolé, mais je préfère très largement vivre à Dubaï que vivre en France. Malheureusement, c'est en train de devenir ce que les gens connaissent. Donc les entrepreneurs, n'hésitez pas à vous casser. Je vous jure que quand vous allez, ceux qui nous écoutent, vous barrer, ça va changer votre vie. Et je parle pas que des impôts, je parle pas d'argent là, je parle de mindset, je parle de vision, je parle de facilité, je parle d'ouverture d'esprit, je parle de voir du pays, je parle d'arrêter la morosité ambiante, l'insécurité, etc. Putain, ça a été le meilleur move de ma life. Mais je suis en train, pardon, de dériver. et oui, et tout s'est enchaîné à partir de cette rencontre, tu vois ce que je veux dire ?
Ouais.
Et je pense que c'est le truc le plus... C'est la rencontre la plus impactante de ma vie, je pense.
Ok, très clair. Et justement, pour parler un peu de Dubaï, toi, t'as emménagé il y a combien de temps là-bas ?
Ça fait 5 ans.
Ok, 5 ans. Donc pareil, ça, tu penses que ça a été un des facteurs aussi de réussite et de booster pour ton aventure ?
100 fois, 1000 fois. Je te jure, c'est un des meilleurs moves de ma vie, vraiment. C'est-à-dire que, bon déjà, bien sûr, le levier fiscal... Donc, bien sûr, plus d'argent, plus d'investissement, plus d'investissement, plus d'argent, plus de rendement, intérêt composé. Donc ça, c'est magnifique. Première chose. Mais surtout, c'est même pas... Je le mets même pas en 1. C'est-à-dire que oui, c'est très bien pour le côté argent, mais je le mets même pas en 1. C'est-à-dire que les gens qui sont jamais venus peuvent pas se rendre compte, mais ici, c'est les US d'il y a 50 ans, quoi. C'est-à-dire que ça tire, quoi. Il se passe un vrai truc. Il y a que des expats, il y a que des chefs d'entreprise, que des mecs énervés. Que des mecs qui savent faire de l'argent, il y a une vraie concurrence, mais il y a une vraie aussi, une vraie notion de service, etc. Donc, t'as un peu l'impression d'être un espèce de mix entre une économie, certes, du Middle East très nouvelle, mais avec des valeurs très libérales, parce que vraiment, Dubaï, c'est une bulle, qui n'a rien à voir avec tout ce qu'il y a autour. Je vois les gens confondent Dubaï, Arabie Saoudite, les gars, oubliez, Dubaï, c'est Las Vegas, c'est-à-dire que c'est Las Vegas, le bordel. Donc, il y a cette espèce de statut privilégié, il y a de l'argent et ils savent investir surtout. C'est-à-dire que les gens qui gèrent ici savent investir. Ils font des plans à 20 ans, à 30 ans, à 40 ans. Ils posent des milliards en infrastructures pour faire venir les gens, etc. Ils arrivent très bien à gérer le pays, d'ailleurs, parenthèse, sans impôts. Comme quoi, voilà. Il y a des services, notamment des services publics. Il y a des taxes. C'est-à-dire que taxes et impôts, c'est pas la même chose. Il y a des taxes, il y a des péages, il y a des trucs comme ça, il y a des taxes d'habitation, il y a des trucs comme ça. Il y a pas d'impôt sur le revenu et d'impôt sur les capital gains. Il y a d'ailleurs des impôts sur les sociétés, 9% maintenant. Mais c'est en fait quand t'es baigné, c'est juste, on dit toujours, tu sais, t'es la moyenne des 5 personnes que tu côtoies le plus, etc. Quand t'es baigné dans un dans un environnement où il y a des entrepreneurs, où il y a des start-upers, où il y a des investisseurs, où il y a toutes les nationalités du monde qui te challenge parce que tu dois parler anglais, parce que tu as des Russes, parce que tu as des Indiens, parce que etc., que tu as vraiment un melting pot de malades, ben ça ne peut que t'ouvrir l'esprit, te tirer vers le haut, t'inspirer. Enfin, en tout cas, moi, c'est le cas. Ça, plus le côté gigantesque où tu te sens très clairement une merde quand t'arrives, parce qu'il y a des gratte-ciel partout, et tu te sens pauvre, tu vois, tu te dis merde, il y a un problème. Du coup, bah, si t'as un peu d'ego, ça te challenge aussi. Et puis voilà, tu peux vraiment vivre une vie de dingue. Et enfin, moi, j'adore cette ville. Désolé, je suis peut-être un peu trop enthousiaste, mais vraiment, c'est le meilleur move de ma vie. Donc, les gens qui n'ont jamais vu, venez voir. Mais au-delà de ça, je veux même pas faire la pub de Dubaï. Je te jure que juste bouger de France, parce qu'on a tous été élevés en France, parce qu'on a cette espèce de morosité, cette espèce de, je sais pas, tu sais, de mélancolie française, d'avoir vécu le truc et de voir le pays se partir en couille. Partez quoi. Allez aux États-Unis, allez au Brésil, allez où vous voulez carrément. Mais un an, deux ans, laissez-vous la chance, parce que vraiment, ça fait une différence. Vraiment, mental.
Ouais, je suis convaincu que changer de cadre et changer d'environnement, ça peut être un énorme booster. Typiquement, en 2021, moi, je suis parti vivre 5-6 mois à Lisbonne, au Portugal. Et tu vois, ça a été vraiment un gros, gros déclic. Et c'est ce qui a fait que derrière, je me suis lancé dans l'entrepreneuriat. Donc, je suis complètement aligné avec ça, et que ce soit à Dubaï ou ailleurs. C'est clair que ça a beaucoup, beaucoup d'avantages de quitter la France, même sur une courte période, entre guillemets. Ça peut créer un déclic pour la suite. Et c'est super important. Ma deuxième question sur cette partie, c'est qu'est-ce qui est le plus important selon toi dans le fait d'entreprendre?
Alors, moi, très clairement, moi, je suis un mec très terre à terre. Le seul moyen de faire l'argent que je fais, c'est d'être entrepreneur. Je ne peux pas physiquement gagner ce que je gagne en étant salarié. C'est aussi simple que ça. Et je ne peux pas physiquement, encore moins, gagner ce que je veux gagner dans 2 ans, dans 5 ans, dans 10 ans en étant salarié. Mon seul choix, c'est d'être entrepreneur. C'est aussi simple que ça. C'est aussi simple que ça.
C'est simple et efficace.
Non, mais, parce qu'au bout d'un moment, quand tu tires un fichier Excel, c'est pas compliqué, tu vois. Y égale à X, tu vois. Combien tu gagnes en revenu qu'il soit actif ou passif, c'est égal à combien tu es capable d'investir fois ton rendement, tu vois. Donc, tout le monde parle des revenus passifs, il faut se faire plusieurs sources de revenus, avoir des revenus passifs, c'est génial, ça paye ta vie. Oui, mais les revenus passifs sont créés par des revenus actifs. Donc, au bout d'un moment, pour le meilleur moyen d'avoir des gros revenus passifs, d'être rentier, d'être machin, tout ce que tu veux, avoir des dividendes, c'est de gagner beaucoup pour pouvoir investir beaucoup. Pour avoir le fuel, si t'as pas de fuel à mettre dans la chaudière elle brûle pas. Donc moi j'ai expliqué le problème et j'ai dit ok, comment on gagne beaucoup? Bah au début, quand on sait pas et qu'on fait des extras, on fait du black, on gagne plus, tu vois. On fait des heures supplémentaires, on trouve tous les moyens. Et après, bah on commence à apprendre, etc. Et très vite, moi je me suis rendu compte que le vrai moyen de gagner beaucoup, c'est d'être entrepreneur. Si ça marche. Donc forcément, il suffit que ça marche. Et donc faut se sortir les doigts pour que ça marche.
Ouais, je suis très aligné avec ça. Il me reste 2 questions pour cette partie. C'est comment est-ce que ton entourage vit ton aventure entrepreneuriale?
Disons que je me pose pas la question parce que malheureusement mon aventure entrepreneuriale est ma priorité. Donc mon entourage s'adapte à ma priorité, ou alors il ne doit plus être mon entourage. Désolé, toujours pas de mec super équilibré d'Instagram qui boit des smoothies à la fraise.
Ah mais il n'y a pas de mec équilibré d'Instagram sur ce podcast, donc t'inquiète. Sinon tu serais pas invité. Donc.
Non, je crois qu'il faut savoir ce qu'on veut, c'est toujours pareil. En fait, il faut juste mettre son curseur. C'est-à-dire que, et en plus je me fous de la gueule des mecs équilibrés d'Instagram, mais c'est tout à fait possible. Mais c'est-à-dire que ça dépend. Si tout ce qui t'intéresse, c'est la liberté de vivre avec 4000 euros par mois à Bali, de travailler en remote, etc., c'est tout à fait possible. Et voilà, et ça y est, t'es arrivé. Mais moi, c'est pas ça qui m'excite. Moi, c'est d'aller chercher les vrais milestones, d'aller chercher le milliard avec Green Bull, etc. Et pour ça, il faut vraiment toujours comme le sportif de haut niveau, quoi. Tu veux gagner les JO? Faut tout mettre en place pour gagner les JO. Et dans ton organisation, et dans ton entraînement, et à qui tu parles, et blabla. Donc moi, aujourd'hui, mon entourage veut gagner les JO. Donc soit il s'adapte, soit il doit partir. Donc vraiment, je le gère pas du tout bien. Enfin, en tout cas, si, je le gère bien pour mon objectif, mais je le gère pas bien pour un mec qui se dirait il faut que tout soit super équilibré, une famille happy et heureuse. Non. Je suis célibataire, je le suis par choix. Je fais en sorte de ne pas me mettre en couple C'est-à-dire que sur un malentendu, ça peut toujours arriver, mais en tout cas, je suis extrêmement exigeant comme ça, je suis sûr que ça arrive pas. J'ai pas d'enfant, j'en veux pas non plus. Et voilà, donc c'est juste que je suis focus. Ma famille, bon, c'est encore autre chose. La famille, ça se gère relativement bien, tu vois. Ils sont plus dans la phase où ils ont peur, etc. Donc la famille proche, c'est pas un souci. Mais tout ce qui est entourage amical, etc. Et je dis pas que j'ai pas d'amis, tout va bien, tu vois. J'ai des potes, je fais des activités, mais juste elles sont alignées, quoi. Et dans des moments de temps qui me conviennent. Mais j'ai plus du tout, mais j'ai l'impression, enfin, je sais pas, pour moi, c'est complètement normal, mais j'ai plus du tout de groupes qui me tirent vers le bas, de gens qui me tirent vers. Enfin, moi, quand je sens que quelqu'un est pas trop aligné avec ce que je veux, en fait, ça fit pas automatiquement avec lui, quoi.
Ouais, non, mais c'est clair. Et puis, en fait, je pense que plus t'évolues au fil du temps, moins t'as envie de côtoyer, en fait, des gens qui, justement, te tirent vers le bas, ou qui n'ont pas les mêmes aspirations, les mêmes objectifs, les mêmes ambitions que toi aussi. Je pense que c'est quelque chose qui, tu vois, se structure au fil du temps.
Ouais, ça fait assez naturellement. Puis je pense que tu te builds, tu sais, ton filtre anti-bullshit avec l'âge.
Ouais,
tu vois.
De ouf.
Tu commences à plus avoir 22 ans, tu vois. Malheureusement, j'aimerais bien. Mais du coup, j'ai l'impression que c'est maintenant automatique dans mon subconscient, tu vois. Il n'y a plus de...
Ouais, je suis assez d'accord avec ça. Et c'est clair que parfois, tu rencontres aujourd'hui certaines personnes, tu te dis, OK, non, ça, j'ai pas envie du tout de... Ouais. Que ce soit faire du business ou même juste discuter avec cette personne. Et t'as juste une barrière, en fait, qui fait que c'est bon, c'est ciao. Et c'est quelque chose que t'aurais accepté peut-être il y a 10 ans, mais qu'aujourd'hui, c'est plus du tout le cas. On passe... alors, ce qui est intéressant, justement, pour revenir à ces questions, c'est que chaque aventure est unique, tu vois. Dans le podcast, on a reçu aussi bien, tu vois, ça va être Grégoire, par exemple, le fondateur du Montreux Comedy Festival, plus grand festival d'humour francophone du monde, ou encore Joël Bouraima, coach sportif d'Omar Sy, de Kanye West, etc. Enfin, en fait, ces gens-là, justement, ont une aventure qui est unique, et à chaque fois, leur réponse, tu vois, elle est unique. L'idée, c'est pas de rentrer justement dans la norme et me répondre justement sur la question de l'entourage, tout va bien, j'ai un équilibre parfait, etc. Enfin, chacun ses objectifs, chacun son aventure, et c'est ça aussi qui est intéressant, et c'est ça qui inspire aussi les gens. Donc ça, c'était pour revenir sur tout ça.
Cool.
On va pouvoir passer à la dernière partie du podcast, avec quelques petites questions rapides. Évidemment, à chaque fois, t'as le temps d'y répondre. La première, c'est une question très simple, c'est qu'est-ce que tu fais pour aller mieux?
Ah, j'aime bien cette question. C'est joli. Qu'est-ce que je fais pour aller mieux? Je vais sauter en parachute.
Ah ouais, t'as sauté combien de fois en parachute?
J'ai 250 sauts, 260 sauts là actuellement.
Ah ouais.
Oui, je fais ça vraiment de façon sportive. Excellent, ok.
Oui, je vois très bien. Excellent. C'est quoi ton plus grand rêve?
Je suis pas... C'est-à-dire que à un moment, tu sais, il y a tous les trucs des livres... De quand tu lis des biographies ou du dev perso sur internet, etc. Et on te dit qu'il faut un grand objectif à atteindre. C'est une espèce de mission de vie. J'ai pas trop ça. Moi, j'ai plus, comme on disait tout à l'heure, des objectifs intermédiaires. Et j'ai pas le rêve. J'ai l'impression, mais peut-être que mon interprétation est complètement fausse, mais en tout cas, c'est comment je le vois. Moi, j'ai l'impression que quand t'as un rêve de fou, genre inatteignable, c'est que tu pars du principe que c'est un rêve. Tu vois, genre, je sais pas, je suis salarié, je bosse à l'usine et je veux être millionnaire, c'est mon rêve, tu vois, ou je veux être rentier. Et j'ai pas ça parce que je set up des objectifs atteignables. Tu vois, donc j'ai pas de rêve de dire, OK, moi, je veux habiter sur Mars, tu vois. Très peu de chances que ça réussisse. Donc, j'ai juste des objectifs, on en a parlé tout à l'heure, et j'ai pas vraiment le grand goal. J'ai pas le grand goal, je te jure. J'ai pas le... Je veux changer le monde et ramener des... L'abondance pour tout le monde et l'eau potable sur la terre entière. C'est-à-dire que si je décide... Je dis pas que j'ai pas des causes et des non-profits qui m'intéressent, etc. Mais si je décide de le faire, je le fais, en fait. Je mets en place, OK, un espèce de business plan de dire, OK, comment on y va? Étape 1, 2, 3. J'ai pas de grand rêve fou.
Je comprends très bien et c'est très relié avec ce que tu m'as dit tout à l'heure. C'est quoi ta plus grande peur?
Je pense que c'est la mort. Parce que c'est-à-dire que tout s'arrête. Le fun s'arrête. Donc je pense que c'est la peur ultime. sauf si tu crois à la réincarnation ou des trucs comme ça, ou peut-être ça, le fun recommence. Ça serait fun d'ailleurs. C'est, pour moi, c'est le meilleur scénario.
On espère.
Franchement, c'est le meilleur scénario. Autant le paradis, tout ça, tu kiffes. Non, moi, j'aime bien la réincarnation. On repart à zéro, c'est parti. Même joueur joue encore. Mais ouais, je pense que c'est.
Ouais, je suis d'accord.
Je pense que c'est la peur ultime de dire, bah voilà, t'as un accident demain. Ça peut arriver, tu vois, tu traverses la rue, tu te manges un bus. J'aurais l'impression de pas avoir eu le temps de finir le jeu, tout simplement.
Ok. Est-ce que t'as un livre à me conseiller ?
J'ai un livre à te conseiller, oui. Je conseille toujours le même pour les gens qui me demandent un conseil de livre parce que je me rappelle. D'ailleurs, si je le relisais, putain, faut que je le relise aujourd'hui parce que je pense qu'il fera pas du tout l'effet qu'il m'a fait à l'époque. Mais à l'époque, il m'a fait un effet de fou, c'est The Magic of Thinking Big, la magie de voir grand, en français. Et c'est un livre de dev perso, très clairement, qui t'explique comment voir grand, tu sais, qui te motive un truc de malade, de dire, ok, t'arrêtes d'être un loser, ok, tu vas t'habiller correctement, tu vas faire ça, tu vas être le meilleur, etc. Mais c'est bien fait, ça te motive de fou. Et je sais pas, il m'avait un peu shifté le cerveau. Et du coup, j'en ai un souvenir très fort, mais je pense que si je le relis aujourd'hui, il sera moins cool. Mais pour quelqu'un, je sais pas, qui est, parce que, comme moi j'étais à l'époque, c'est-à-dire je sais plus quelle période c'était, mais c'était genre début quoi, je suis énervé, je suis dans l'entrepreneuriat, je me lance, il y a des trucs qui marchent, des trucs qui marchent pas, je fais de l'immobilier, mais j'étais encore dans un début de phase de vie de ça fonctionne, je suis encore tout seul dans mon coin, j'ai envie de faire plus gros, mais je comprends pas tout, et je sais pas, il m'avait vraiment switché le cerveau. Donc La magie de voir grand, The Magic of Thinking Big en anglais, j'ai plus du tout le nom de... C'est Schwartz, je crois, il me semble.
T'inquiète, on mettra le lien en description et la ref.
Ouais.
Exactement. Et j'irai checker ça. Est-ce que t'as un film ou une série à me conseiller ?
La dernière série que j'ai vue, c'est Tapis. Mais j'ai pas très envie de te la conseiller. Ouais. Enfin, si, j'ai envie de te la conseiller. C'est-à-dire que...
Je l'ai déjà vu.
Qu'est-ce que t'en as pensé ? Ça m'intéresse, moi, cette interview.
Bah... J'ai été assez déçu de que ce soit un mix entre de la fiction et de la réalité, tu vois.
Ouais, tout pareil.
Je trouve qu'il y avait trop de fiction.
Ouais, je suis tout à fait d'accord avec ça. Et il y a pas assez de business, je trouve. En fait, nous on regardait ça pour le côté et business, tu vois.
Une série sur tapis, c'est quand même décevant, quoi. Ouais.
Mais ce que je peux conseiller aux gens, tant qu'on y est, c'est ni une série ni un film, c'est justement le documentaire. Il y a 2-3 documentaires, et notamment en accès gratuit sur YouTube sur tapis pour le coup, mais en mode documentaire. Où là, on rentre plus dans le détail et on voit d'ailleurs les parties qui sont fausses dans la série. Donc n'hésitez pas à les regarder, les gens qui sont intéressés justement par le côté business, parce que déjà ça débunk des trucs qui ont été pris en très gros raccourcis dans la série, et puis bah on a un peu plus la notion de à quel point ce mec était un ouf au niveau des risques. C'est à dire que moi pourtant je suis pas mal profil risque, mais alors ça va trop loin, lui c'est un fou, c'est un malade, mais c'est un génie en même temps, et il a fait tellement de choses, etc. Enfin moi j'aime bien le personnage.
C'est clair que le mindset tapis, c'est quelque chose. Hein. Franchement, je pense qu'on peut difficilement faire mieux.
Ouais, le mindset, c'est la démolition, tu sais. Il dit, ok, moi je m'en fous en fait. Tous les moyens sont beaux, quoi. Tous les moyens sont bons.
C'est clair. Ouais. C'est clair. Je suis d'accord avec ça. J'ai rajouté une question cet été qui s'appelle la question reverse, où en fait tu prends le rôle de host pendant une seule question.
Ok.
Et du coup, s'il y a une question que tu souhaiterais me poser, ce serait laquelle ?
Je vais te poser les questions insupportables de podcast. Ça va être ton tour. Ok, alors. je pêchais dans mes questions détestées. Donc, quelle est ta plus grosse leçon business, le plus gros truc de fou qui t'est arrivé et qui t'a appris une leçon, tu vois, de dingue dans le business ? Si tu devais le refaire, qu'est-ce que tu ne referais pas ?
J'ai envie de mourir.
Ah, chiant, celle-là.
Ouah, c'est... je pense que c'est dans le top 10 avec quel est ton meilleur conseil pour entreprendre.
Exactement.
Quelle est la leçon? Bah, je vais te répondre par une réponse la plus bateau et la plus nulle qu'on peut retrouver dans certains podcasts aussi, qui est le fait de, finalement, la leçon, c'est de m'être lancé.
Oh, voilà, belle pirouette. Je la garde pour la prochaine fois.
Voilà, tu vois. Je pense que c'est une très bonne réponse à cette question. Il me reste deux petites questions pour terminer. Mmh. Est-ce que tu as une ou un entrepreneur à me conseiller pour un futur épisode ?
Je pense que tu devrais interviewer un de mes associés, pas pour replacer Green Bull, mais juste parce que les autres sont beaucoup plus silencieux, on les voit jamais. Et il y a Jean-Guillaume, qui est un mec qui est... Tu vois le dev perso dans la vie, ok, comment ça marche. Il y a des gens, tu vois, qui sont, ils aiment le dev perso. Ils en font, ils exécutent, ils font des plans, des cahiers, des trucs. Lui, il a inventé le dev perso. C'est-à-dire que c'est un malade mental au niveau motivation, mise en place de process, etc. à ce niveau-là. Et si tu veux un épisode, je ne sais pas si ça correspond au podcast, mais si tu veux un épisode coup de pied, un petit peu comme le livre dont on parlait juste avant, justement, si tu veux un épisode coup de pied au cul, en mode mindset pur et dur, genre les gens, tu dis ça va leur décrocher la mâchoire, je pense que ça peut être intéressant.
Un épisode bagarre.
Un épisode bagarre mindset, les gars, vous n'avez pas d'excuses, sortez-vous les doigts, mais quand même avec des trucs qui sont activables. Des vrais leviers okay. qui font que c'est plus facile au niveau de ton mindset et ton esprit de guerrier, tu vois.
Bah je note la reco du coup. Et ma dernière question que je pose sur chacun de mes épisodes, c'est quoi pour toi un entrepreneur ?
Quelqu'un qui sait régler des problèmes, clairement. C'est juste ça. C'est régler des problèmes. C'est déconstruire un problème, analyser, faire une espèce de pensée à la base du problème, okay, de détricoter le problème et de comprendre d'où il vient. Parce que souvent, les gens qui n'ont pas trop de business acumen, justement, ils n'arrivent pas à déconstruire, parce que les problèmes sont complexes. Ce n'est pas juste le site, il ne marche pas, tu vois. C'est des problèmes qui peuvent être vraiment complexes. Il faut arriver à les déconstruire pour comprendre déjà d'où vient la base, parce que parfois, c'est un truc à tiroir où il y a ça qui entraîne ça, qui entraîne ça, qui entraîne ça. Et à la fin, tu as ton vrai problème de dire, ce mois-ci, je ne sais pas, on a fait moins de clients que le mois dernier. Donc, d'avoir cette capacité d'analyse de déconstruction et ensuite de régler les problèmes avec des roadmaps qui sont stupides parce que c'est pas juste j'appuie sur un bouton, ça remarche. Parfois, il faut 4 mois avec des phases, avec des ressources qui manquent, avec des gens à embaucher, des gens à changer, avec une infrastructure à changer, ça peut être une infrastructure IT, avec des process de vente, une offre, un catalogue. Et donc, il y a le côté déconstruire, analyser. Et le construire, le côté régler le problème avec une roadmap, avec des priorités. Souvent, les gens ne savent pas prioriser. Tout en continuant à vendre. Parce qu'il faut que la boîte, elle continue à vivre pendant ce temps-là. Donc, ça veut dire que parfois, tu es dégradé sur des trucs. Et quand tu aimes bien l'instantanéité, moi, j'aime bien justement l'instantanéité. Quand on lance un truc, hop, c'est fini, on passe à un autre. Ben, ça ne marche pas trop comme ça dans l'entrepreneuriat. Tu es souvent à cheval sur des espèces de périodes de modification de trucs, et à peine t'en as fini un, t'en as un autre qui arrive, mais qui va durer 3 semaines, et puis là, t'en as un, ça dure 4 jours, mais hop, après, ça repart sur un autre projet. Donc, je pense que tout ce côté analytique et réglage de problèmes dans la durée, un peu gestion de projet, c'est ça qui fait un entrepreneur.
Eh bien, écoute, ce seront les mots de la fin. J'espère que ça t'a plu, Yann. C'était très cool.
C'était très cool.
Et j'espère que toi qui nous as écouté, ça t'a plu aussi. On mettra tous tes liens en description, Yann. Et qu'est-ce qu'on peut te souhaiter à part un maximum de kiff pour la suite? Et je pense que le reste suivra.
Je peux souhaiter que les gens s'abonnent à ma chaîne YouTube. Parce que on veut monter
aussi
un million.
Pour atteindre le million.
Ils m'aider, voilà. C'est...
Exactement.
C'est ça que je souhaite.
Exactement. Et écoute, on te le souhaite. Merci beaucoup, Yann.
Merci salut. À toi, salut.